Chapitre 31. Saolin n'ouvrit pas les yeux quand ils le plongèrent dans le bassin, mais il cessa de marmonner. Il surnagea un instant, puis il prit une profonde inspiration et tendit les bras vers le ciel. Ensuite, il disparut dans le fluide bleuté. Raoden contempla le processus avec gravité. Ils avaient retardé ce moment fatidique pendant 3 jours, dans l'espoir que le vieux vétéran, contre toute attente, recouvre la raison. Leur espoir avait été déçu. Il l'avait amené ici d'une part à cause de la gravité de sa blessure, et d'autre part à cause du jeune homme, qui savait qu'il ne pourrait plus entrer dans la maison des déchus si Saolin s'y trouvait. Jamais il n'aurait supporté de l'entendre répéter « J'ai déçu mes 6 esprits ». Galadon posa une main sur son épaule.
« Viens, Sulé. Il n'est plus. »
« Non. En effet. Par ma faute. » Pour une fois, le fardeau de la douleur physique semblait insignifiant, comparé à ses souffrances morales. Ils retournèrent à lui, de plus en plus nombreux au fil du temps. Il leur fallut plusieurs jours pour s'apercevoir et se persuader que Saren ne reviendrait pas. Il n'y aurait plus de distribution. On ne pourrait plus se contenter de manger, d'attendre et de manger de nouveau. Alors ils retournèrent à lui, comme arrachés à une sorte de transe, en se remémorant qu'un jour, un jour pas si lointain, leur existence avait eu un but. Raoden les affecta aux mêmes travaux qu'auparavant, à nettoyer, à cultiver, à bâtir, avec des outils et des matériaux convenables. Le labeur penchait plus vers la reconstruction que vers la perte de temps volontaire. On remplaça des toits de fortune par d'autres ouvrages fonctionnels et durables. Les semences supplémentaires permirent de nouvelles semailles sur une surface étendue. On renforça et on rallongea le muret qui entourait la nouvelle élantrice, même si pour l'heure, les sbires de Shaor se tenaient tranquilles. Mais la nourriture qu'ils avaient prise sur la charrette de Saren ne leur durerait guère. Ces fous reviendraient à la charge un jour ou l'autre, ils le savaient. Il se retrouva bientôt nanti de partisans en bien plus grand nombre et dut admettre que l'intervention de Saren, malgré les revers temporaires qu'elle avait causés, se révélait en fin de compte plutôt bénéfique. Elle avait prouvé aux gens que, aussi affamé soit-on, se remplir la panse ne suffisait pas. Le bonheur, c'était davantage que l'absence d'inconfort. Ce n'était plus la nourriture qui les poussait à travailler en somme, mais la crainte de ce qu'ils deviendraient s'ils s'en abstenaient. « Ils ne devraient pas être ici. » Raoden observait le prêtre Fjordel depuis leur poste d'observation favori, le jardin sur le toit d'un des bâtiments qui bordait l'esplanade.
« Tu es sûr qu'il s'agit du Gjörn, Sulé ? » ?»«
Il n'arrête pas de le répéter dans ses prières. Et c'est un Fjordel. Il a une carrure bien trop forte pour être Aonik. »
« Le Shaod ne prend pas les Fjordel, »
dit Galadon d'un ton opiniâtre.
« Seulement des Arélois, des Tewa et quelques Duladen. »
« Je sais bien. » Le jeune homme frustré se redressa sur son séant. « Ce n'est peut-être qu'une question de proportion. Comme il y a très peu de Fjordel en Arélon, cela n'arrive jamais. » Le Dula secoua la tête.
« De nombreux Jindoé vivent le long de la route des épices. Pourquoi le Shaod les oublierait-il alors ?»«
Je l'ignore. »
Écoute-le prier, railla Galadon, comme si on n'avait pas essayé nous aussi.
Je me demande combien de temps il va attendre.
Déjà 3 jours qu'il reste là. Il doit commencer à avoir faim, Colo.
Raoden opina. Même après 3 jours de prière presque incessante, le Gjörn gardait une voix ferme. Ils ne le portaient pas dans leur cœur, mais ils pouvaient saluer sa détermination. Quand il constatera qu'il n'arrive à rien, on n'aura qu'à l'inviter à nous rejoindre, dit-il.
Des ennuis, Sulé.
Le jeune homme regarda dans la direction qu'indiquait le Dula et discerna plusieurs silhouettes tapies dans l'ombre, à la gauche du Gjörn. Il jura en les voyant se faufiler hors de la ruelle. De toute évidence, les sbires de Shaor avaient épuisé la nourriture volée beaucoup plus vite que Raoden ne l'aurait cru. Ils avaient dû revenir chercher des miettes et ils avaient trouvé beaucoup plus prometteur. Le panier encore plein au pied du Gjörn.
Viens,
lança-t-il en se tournant pour descendre du toit. Quelques jours encore auparavant, ces fous se seraient rués tout droit sur la nourriture. Mais les événements récents les avaient changés. Ils faisaient des blessés sans autre forme de procès,
comme s'ils comprenaient désormais que moins il y aurait de bouches à nourrir, plus ils auraient de chances de se procurer de quoi manger.
« Que le Doloken me brûle d'aider un Gjorn !»
marmonna Galadon en le suivant. Hélas, ils ne purent arriver à temps pour sauver les sauvages de Shaor. Raoden tourna l'angle du bâtiment au moment où le fou de tête sautait sur le Gjorn par derrière. Le Fjordel se leva d'un bond, se retourna à une vitesse presque surhumaine et saisit la tête de son assaillant. Un craquement sec retentit lorsqu'il lui brisa le cou d'une torsion avant de le projeter contre le portail en bois. Les deux autres attaquèrent de concert. L'un encaissa un coup de pied en rotation qui l'envoya bouler à plusieurs mètres, tel un tas de chiffons. L'autre trois crochets successifs au visage, suivis d'un coup de pied à l'aine. Le cri de rage de ce sauvage-là s'interrompit dans une plainte quand le Gjorn lui décocha un dernier coup de pied dans la tempe. Le jeune homme freina des quatre fers bouche bée.
« Il fallait s'en douter, » dit Galadon. « Les prêtres d'Eretti savent se défendre, Colo. »
Son ami hocha lentement la tête en regardant le Fjordel se remettre à genoux en souplesse et reprendre ses prières. Il avait entendu dire qu'on formait les prêtres d'Eretti dans les monastères Fjordel, de sinistre réputation, où ils devaient suivre un entraînement physique des plus rigoureux. Mais il n'aurait pas cru qu'un Gjorn d'âge moyen se serait si bien entretenu. Les deux démons encore capables de bouger s'éloignaient à quatre pattes. L'autre gisait contre le portail, le cou brisé, et poussait des gémissements pitoyables.
Un vrai gâchis, souffla le prince. On aurait pu utiliser ces gens à la nouvelle élantrice.
Je vois mal ce qu'on peut y changer,
et Galadon de secouer la tête. Raoden se tourna vers le marché des Lantrisses.
Moi je le vois très bien, dit-il d'un ton déterminé.
Ils pénétrèrent sur le territoire de Shaor de façon si franche qu'ils avaient presque atteint la banque quand on les repéra. Le prince ne réagit pas quand les fous se mirent à hurler. Il continua, résolu, concentré sur son but. Galadon, Karata et l'ancien second de celle-ci, Daché, l'un des rares combattants expérimentés qu'il leur restait, l'accompagnaient. Ils tenaient tous à bras-le-corps un grand sac, d'un air nerveux. Les sbires de Shaor les suivirent, coupant leur retraite. Après les pertes qu'ils avaient subies ces dernières semaines, ils ne pouvaient guère en rester qu'une vingtaine, mais, dans les ombres, ils paraissaient bien plus nombreux. Le colosse jeta un regard angoissé à Raoden, qui se douta de ce que son ami pensait.
« Tu as vraiment intérêt à savoir ce que tu fais, Sulé. »
Le jeune homme serra les dents. Il pariait non sans risque sur le caractère rationnel de l'esprit humain. Shaor n'avait guère changé. Même si ces hommes devaient lui avoir donné une partie de leur butin, on ne l'aurait pas cru, à en juger par ces hurlements plaintifs qu'ils entendirent bien avant d'atteindre la banque.
« Apportez-moi à manger! Je veux à manger !»
Raoden entra le premier dans l'édifice, talonné par les trois autres, eux-mêmes suivis des derniers fidèles de Shaor, qui allaient à pas lents. Ils s'attendaient de toute évidence à ce que leur déesse prononce sa sentence de mort à l'encontre des intrus. Et cette inévitable sentence, ils l'exécuteraient. Le prince hocha la tête à l'adresse des trois autres, et tous lâchèrent leur sac. Une cascade de blé s'abattit sur le sol, pour se mélanger à la boue ou tomber dans les fissures et les crevasses. Des ululements s'élevèrent derrière eux. Raoden fit signe aux siens de s'écarter pour laisser les fous se jeter sur le blé.
« Tuez-les !»
glapit Shaor. Mais un peu tard, ses partisans étaient déjà trop occupés à s'empiffrer. Raoden et ses compagnons repartirent comme ils étaient venus. Le premier s'approcha de la nouvelle élantrice quelques heures plus tard à peine. Raoden se tenait près du grand feu qu'ils avaient allumé au sommet d'un des bâtiments les plus hauts. Les flammes consumaient une bonne partie de leurs précieux copeaux, et Galadon n'avait pas voulu en entendre parler. Mais son ami avait ignoré toutes les objections qu'on lui présentait. Les sbires de Shaor avaient besoin de voir ce feu pour opérer l'association nécessaire, l'acte d'imagination qui les rendrait à l'équilibre mental. L'autre surgit de l'obscurité du soir. Il allait à pas furtifs, dans une posture inquiète, bestiale. Il berçait un sac déchiré qui contenait encore deux ou trois poignées de blé. Raoden fit signe de s'écarter aux combattants qu'il avait alignés au pied de l'édifice.
« Qu'est-ce que vous voulez ? »
lança-t-il au fou. L'autre leva vers lui un regard vide.
« Je sais que vous me comprenez, » reprit le jeune homme. « Vous n'êtes pas là depuis longtemps, 6 mois tout au plus. Cela ne suffit pas pour oublier une langue. bien que vous essayiez de vous persuader du contraire. »
Le fou, les mains luisantes debout, brandit le sac.
« Alors ?» insista le prince.
« Cuir !»
dit enfin l'autre.
Ce qu'ils avaient répandu sur le sol de la banque, c'était des semences de blé, du grain durci tout l'hiver en vue des semailles de printemps. Même s'ils avaient dû essayer, les sbires de Chahor n'avaient pas pu en mâcher ou en avaler sans douleur. Au fond de leur esprit malade devait subsister, enfin, ils l'espéraient, le souvenir de leur humanité, de la civilisation, de la faculté de cuire les aliments.
Raoden espérait qu'ils allaient faire face à leur humanité. « Je ne vais pas cuisiner pour vous, » déclara-t-il, « mais je vais vous laisser cuire votre propre nourriture. »